Locaux présente ses podcasts en ligne.
Merci de m'accueillir dans votre atelier à Paris, aussi unique et fourni que vous et votre parcours. Pour commencer, Orlan, vous n'êtes ni sculptrice, ni peintresse, ni performatrice, ni photographe, ni vidéaste. Et pourtant, vous êtes tout cela à la fois, sans limites et sans frontières, puisque vous êtes avant tout et au-delà de tout une artiste qui utilise les médiums et matériaux pour concrétiser ses idées, pour transmettre des messages, pour promouvoir une nouvelle société. D'où ma première question. Au lendemain des résultats du premier tour, fait de désenchantement, de peur et de perte d'espoir pour beaucoup de gens, parlez-nous de votre société idéale.
Toute ma vie, j'ai essayé de casser les murs de glace qui sont entre les gens, entre les générations surtout, entre les couleurs de peau, entre les sexes, entre les pratiques artistiques. Et bien sûr, je rêve d'un monde sans violence, sans viol, sans pédophilie, sans femmes que l'on tue, sans femmes battues. Et d'ailleurs, je viens de faire un slow avec Robert Combas, puisque c'est mes nouvelles œuvres à l'heure actuelle, le slow de l'artiste, où effectivement, la chanson que l'on a fait ensemble s'appelle Je rêve d'un monde sans violence.
Et d'ailleurs, est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée, puisque votre engagement politique, c'est avant tout votre corps, ou le corps tout court d'ailleurs, puisque vous exposez actuellement, notamment dans l'exposition collective Femmes guerrières, femmes en combat, à la topographie de l'art dans le 3e arrondissement de Paris, avec notamment l'œuvre que l'on voit là un petit peu dans votre atelier, L'origine de la guerre, une réinterprétation de l'origine du monde de Courbet, qui incrimine le phallus comme origine de ce chaos humain. Vous avez d'ailleurs récemment rendu hommage aux Ukrainiens et Ukrainiennes en mars. Et est-ce que votre pétition contre la mort, finalement, pourrait devenir une pétition contre le phallus ?
Moi, j'adore les hommes. Je n'ai pas de problème avec les phallus. Ce que je n'aime pas, c'est les porcs. Donc, c'est ceux, effectivement, qui battent, qui violent, qui font la guerre, qui s'énervent facilement. Et donc, là, il y a vraiment une très grosse différence. Simplement, j'ai beaucoup travaillé en référence à l'histoire de l'art. Et là, le tableau de l'origine du monde de Courbet est absolument, pour moi, le tableau le plus abominable qui soit, non pas de par la peinture, parce que c'est quelqu'un qui sait peindre, mais effectivement, il a coupé la tête, les bras et les jambes à cette femme pour qu'il ne reste plus que l'organe de la reproduction. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est abominable, parce que c'est peindre d'une manière très très littérale tout ce qu'on fait, la violence qu'on fait au corps des femmes sans arrêt, quoi. Et donc moi, j'ai voulu reprendre le tableau, et j'ai travaillé donc avec un homme qui en plus et je le remercie, et dit son nom, veut qu'on dise son nom, qui est Jean-Christophe Bouvet, qui donc pour moi, c'est la queue du diable, parce qu'il jouait dans Sous le soleil de Satan avec Depardieu le rôle du diable. Et il a un phallus qui est ni grand ni petit, c'est un phallus à la portée de tout le monde. Et ça, c'était important, parce que je ne voulais pas que ce soit un maltortorpe, qui on aurait parlé que de la grandeur de la queue. Donc là, je lui ai coupé la tête, je lui ai coupé les jambes et les bras, et j'ai essayé, d'une manière, on pourrait dire, de faire un constat. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un homme qui est à la place, justement, d'une femme, dans la même position, et tout aussi handicapé que l'autre?
Et les réactions étaient plutôt virulentes.
Oui, mais enfin, les réactions contre l'origine du monde ont aussi été très violentes. Le tableau a été caché pendant des années derrière des petits rideaux, derrière des œuvres, derrière... Bon. Donc, il est pour moi très hallucinant qu'on ne puisse plus représenter ou pas, ou très peu, les corps. Donc, ça montre bien qu'effectivement, le corps est politique, que le privé est politique. Et donc, c'est de cela dont j'ai voulu parler vraiment.
Et justement, parlons de ce corps que vous avez fait. Donc, vous en avez fait votre médium de prédilection et plus tard votre ready-made modifié par la chirurgie esthétique, surtout dans les années 90, ou la médecine ou encore la technologie. Car vous dites qu'il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer. Donc, il était support visuel de vos œuvres depuis vos 17 ans, lorsqu'en 1964, vous naissez avec Orlan, qui accouche d'elle-même du verbe amour. Finalement, vous avez fait de ce corps un objet de débat public, car comme vous le dites, le corps privé et politique, puisque subissant des pressions sociales, culturelles et religieuses. Et c'est en 77 à la FIAC que s'opère votre renaissance et reconnaissance en tant qu'artiste avec l'œuvre performance Le baiser de l'artiste, donc à 5 francs pour un baiser. Parlez-nous de cette responsabilité justement à être artiste et de la démarche que vous avez décidé d'adopter pour l'être et transmettre votre art.
Alors, pour moi, c'est vraiment très très important que les artistes prennent leurs responsabilités. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de dire des choses très importantes pour mon époque. J'ai toujours essayé d'être pionnière, et je l'ai souvent été. Et ce qui est vraiment très, très grave, je trouve, c'est quand on fait de l'art juste d'une manière narcissique, dans une désinvolture totale par rapport à ce qui se passe dans le monde et dans la société, alors qu'à l'heure actuelle, il y a des choses absolument abominables, dont cette guerre. Et effectivement, ce n'est pas une femme qui fait la guerre, c'est bien Poutine qui a un phallus. Donc,
qui représente en plus la masculinité toxique.
Oui, c'est pour ça, oui. Je peux pas parler du baiser de l'artiste parce que je peux noter ma vie avant et après, puisque j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme, ce qui est vraiment absolument illégal, qui disait « ton rôle de formateur est impossible avec ton attitude de ces derniers jours et tous tes cours sont suspendus ». Et nous aviserons pour ton compte. Et donc, il s'en est suivi. Enfin, mes étudiants ont fait grève. Mes étudiants ont écrit des chansons et chanté des chansons en la gloire du baiser de l'artiste et ont essayé de me faire réintégrer. Mais je n'ai jamais été réintégré. Et donc, ça, c'était vraiment un très, très gros problème pour moi. Parce que je suis resté donc sans paye et on est venu mettre les scellés sur mon atelier avec beaucoup d'œuvres et de photos et de pellicules que bien sûr je n'ai jamais retrouvées. Donc il y a eu vraiment une situation absolument tragique. Qui était en même temps comique parce que je me suis fâché avec ma famille, je me suis fâché avec tous les voisins qui venaient mettre des mots sur ma porte pour me traiter de pute, etc. Donc ce baiser de l'artiste a été vraiment hallucinant et il y a eu un énorme succès médiatique à tel point que la FIAC... L'Argus pour la FIAC ne titrait plus FIAC, mais baiser de l'artiste. Donc voilà. Donc ma revanche est que effectivement, après beaucoup de drames dus à ce baiser de l'artiste et aux conséquences qui s'en est suivies, cette œuvre paraît maintenant dans pratiquement toutes les histoires de l'art et est étudié à l'école et a été acheté par une collection publique. Et parce que avant tout, avant la performance, je dois décrire la pièce qui est avant tout une sculpture avec un énorme piédestal noir sur lequel il y a une photo de moi en noir et blanc collée sur bois et détourée en Madone, donc déguisé en Madone avec les draps de mon trousseau. Et il était possible de mettre un cierge pour 5 francs à Saint-Orlan, ou bien d'avoir un vrai baiser, car à côté de la sainte, il y avait une chaise avec devant une sorte de distributeur automatique de baisers, qui était en fait fabriqué à partir d'une photo de mon buste, collé et détouré, Et il y avait un endroit où il y avait écrit mettez 5 francs, et donc il y avait une fente. On voyait la pièce de 5 francs tomber dans l'œsophage en plastique et tomber dans le pubis tiroir. Donc, et moi, donc je passais derrière pour réactiver ce distributeur automatique de baisers. Et c'était pas un bisou, c'était pas un truc enfantin, c'était un French kiss. Et d'ailleurs, cette performance s'est passée donc au Grand Palais. Donc c'était tout à fait en adéquation.
Et d'ailleurs, on peut retrouver cette œuvre, en tout cas une photographie de cette œuvre, actuellement à Pionnière, à Nantes. C'est ça, dans une exposition collective.
Oui, mais la pièce, la sculpture du baiser de l'artiste se trouve surtout dans ma très grande exposition que j'ai actuellement au Musée d'Art moderne et contemporain et Frac de Toulouse, dans le lieu-dit Les Abattoirs. Et là, Annabelle Ténézé et Julie Crène ont conçu une exposition qui est, on pourrait dire rétrospective, mais j'ai eu énormément de rétrospectives. Je crois que c'est ma 12e ou ma 13e. Donc, ce que je voulais, et c'est ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire, elles ont fait une exposition avec un fil rouge qui montre comment, à partir du corps sculpture, tout ce que j'ai fait au tout début de mes œuvres, où justement je considérais le corps comme une sculpture. On montre ça dans l'expo, mais aussi toutes les sculptures que j'ai faites et qui, la plupart du temps, sont peu exposées, parce qu'une sculpture, c'est lourd, c'est gros, ça se transporte, c'est cher, etc. Et en plus, c'est fragile. Donc là, toute l'expo se déploie autour de ce concept du corps comme sculpture et de la sculpture.
Et en février, vous étiez venu inaugurer les Jeudis du MoCo à Montpellier en nous présentant votre ouvrage Striptease, Tout sur ma vie, tout sur mon art, paru en 2021 chez Gallimard. Et en nous offrant à la fin de la conférence, justement, un magnifique slow performance partagé avec le public. Donc finalement, il y a presque 50 ans, vous naissiez en tant qu'artiste avec un baiser et aujourd'hui, vous relancez le slow en invitant des artistes comme Terre Noire ou La Femme à composer des slows pour rapprocher les gens à l'ère post-Covid. Est-ce que la provocation, l'humour et l'amour, finalement, sont vos meilleurs atouts?
Je vous laisse le dire, mais je l'espère, oui.
Et finalement, vous expliquez que le titre de cet ouvrage était une ultime tentative de striptease, ce qui est impossible pour une femme dont le corps est en permanence revêtu des fantasmes et opinions qu'on ne peut jamais retirer. Alors finalement, est-ce qu'une autobiographie sous forme de livre et non pas d'œuvre que l'on s'approprie par le langage est-elle plus aisée pour transmettre son récit, son message avec les bons mots? Est-ce que c'est une tentative de vous réapproprier votre histoire?
Je n'ai pas à me réapproprier mon histoire, parce que mon histoire, elle est là, je l'ai vécue, je sais ce que je lui dois. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est un travail d'écriture, d'abord, avant tout. Et c'est un livre qui n'aurait pas été écrit sans le confinement, parce que avant, je sautais d'un avion dans un autre avion sans arrêt, donc j'aurais pas eu du tout l'espace mental et le temps de l'écrire. Alors que là, dès le premier confinement, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment le moment de faire ce nouveau striptease, parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'œuvres qui s'intitulent striptease, donc j'ai intitulé ce livre Striptease. Et effectivement, ce qui était important, c'était de montrer combien mon œuvre est dépendante et attachée à ma vie, et combien ma vie aussi dépend de mes œuvres et de ma carrière d'artiste.
Dans ce livre, vous parlez de nombreuses choses et vous parlez notamment de vos traumatismes d'enfance lorsqu'à 10 ans, vous avez été victime d'inceste et d'abus sexuels et pour toujours, ça a tué quelque chose en vous. Et j'ai vu sur le plateau de 28 minutes que vous gratifiez aussi les mouvements MeToo et Balance ton porc d'avoir libéré la parole. Alors comment cultivez-vous la résilience dans votre œuvre finalement?
Vous savez, on ne se débarrasse jamais de son enfance. Mais on peut s'en émanciper. On peut s'émanciper à la fois des parents, à la fois des traumatismes qui nous ont affectés, qu'ils soient sexuels ou autres. Et puis, on peut aussi essayer de s'émanciper de tous les dictats, de tous les formatages, de tous les cadres qu'on a essayé de nous faire avaler.
Donc votre liberté, c'est votre résilience, finalement.
Oui, mais mon œuvre, c'est ma liberté, c'est mon œuvre. Enfin, tout est lié, donc voilà. Et je dis toujours la phrase de Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité.
C'est vrai. Et dans votre manifeste de l'art charnel en 89, vous distinguez bien votre œuvre du body art, donc excluant la douleur, ne la recherchant pas comme source de purification ou comme une rédemption, ne vous insérant nullement en héritière de la tradition chrétienne contre laquelle vous luttez. Vous rajoutez à ce corps plaisir plutôt que vous n'enlevez. Loin d'être une martyre, vous préférez la morphine et filmez vos opérations pour montrer leur caractère jovial, fait de déguisements et d'une ambiance assez festive. Et en vue de cette démarche, quel regard est-ce que vous portez sur l'art de la performance, notamment celle des années 60 et 70, sur son caractère parfois extrême et dangereux? Je pense à la performance Ritmo en 74 de Marina Abramovic, laissée en pâture pendant 6 heures au public avec des objets de plaisir et d'autres de torture, révélant le pire de l'humanité, ou encore des mouvements comme l'actionnisme viennois. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements des années 60 et 70?
Alors moi, je m'en différencie totalement. Je vais d'ailleurs vous lire le manifeste de l'art charnel. Donc, vous dire qu'effectivement, je ne me nomme pas body art. Bien que, bien sûr, il y ait des porosités et qu'il y a des endroits où on se retrouve. Mais moi, je ne considère pas du tout le corps comme lieu de la douleur, de la souffrance, de l'endurance. Mais je considère plutôt le corps comme le corps plaisir. Donc, j'ai écrit effectivement ce manifeste de l'art charnel. En fait, toutes mes œuvres partent soit de manifestes que j'ai écrits, soit de livres que j'ai lus. Et ce manifeste dit, définition, l'art charnel est un travail d'autoportrait au sens classique, mais avec des moyens technologiques qui sont ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et refiguration. Il s'inscrit dans la chair parce que notre époque commence à en donner la possibilité. Le corps devient un ready-made modifié, car il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer. Distinction. Contrairement au body art, dont il se distingue, l'art charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche pas comme source de purification, ne la conçoit pas comme rédemption. L'art charnel ne s'intéresse pas aux résultats plastiques final, mais à l'opération chirurgicale performance et au corps modifié devenu lieu de débat public. Athéisme, l'art charnel n'est pas l'héritier de la tradition chrétienne contre laquelle il lutte, il pointe sa négation du corps plaisir et met à nu ses lieux d'effondrement face à la découverte scientifique. L'art charnel n'est pas davantage l'héritier d'une hagiographie traversée de décollation et autres martyrs, il ajoute plutôt qu'il l'enlève, augmente les capacités au lieu de les réduire. L'art charnel ne se veut pas automutilant. L'art charnel transforme le corps en langue et renverse le principe chrétien du verbe qui se fait chair au profit de la chair faite verbe. Seule ma voix restera inchangée car je travaille sur la représentation. L'art charnel juge anachronique et ridicule le fameux « tu accoucheras dans la douleur ». Comme Artaud, il veut en finir avec le jugement de Dieu. Désormais, nous avons la péridurale et de multiples anesthésiens ainsi que les analgésiques. Vive la morphine à bas la douleur. Perception. Je peux désormais voir mon corps ouvert, sans en souffrir. Je peux me voir jusqu'au fond des entrailles. Nouveau stade du miroir. Je peux voir le cœur de mon amant et son dessin splendide qui n'a rien à voir avec les mièvreries symboliques habituellement dessinées pour le représenter. Chérie, j'aime ta rate, j'aime ton foie, j'adore ton pancréas et la ligne de ton fémur m'excite. Liberté. L'art charnel affirme la liberté individuelle de l'artiste et en ce sens il lutte contre les a priorismes, les dictats. C'est pourquoi il s'inscrit dans le social, dans les médias, où il fait scandale parce qu'il bouscule les idées reçues et il ira jusqu'au judiciaire. Mise au point, l'art charnel n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre les standards qu'elle véhicule et qui s'inscrivent particulièrement dans les chairs féminines, mais aussi masculines. L'art charnel est féministe, c'est nécessaire. L'art charnel s'intéresse à la chirurgie esthétique, mais aussi aux techniques de pointe, de la médecine et de la biologie, qui mettent en question le statut du corps et posent des problèmes éthiques. Style. L'art charnel aime le baroque, la parodie, le grotesque, les styles laissés pour compte, car l'art charnel s'oppose aux pressions sociales qui s'exercent tant sur le corps humain que sur le corps des œuvres d'art. L'art charnel est anticonformiste et antiformaliste, on s'en doutait.
Merci beaucoup. Et justement, ce manifeste, il date de 89. Il est toujours d'actualité, déjà l'actualité dans votre œuvre. Et je pense aussi à une autre actualité, c'est l'exposition pionnière qu'on peut voir actuellement au musée du Luxembourg. Et j'ai pu constater que depuis les années folles et cet élan de liberté qu'on avait pu avoir dans l'art et cet avant-gardisme dont faisaient preuve les femmes, cisgenres, transgenres de l'époque, eh bien, à cause de la crise de 29, à cause de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment une perte de ses droits, il y a eu vraiment un retour en arrière. Et 100 ans après, j'ai trouvé personnellement effroyable le constat de me dire que on n'arrivait pas à avoir la moitié ou une once des droits qui avaient été obtenus dans le milieu de l'art des années folles. Est-ce que vous voyez une actualité de ce manifeste? Est-ce que vous faites un constat, voilà, des années après, de cet art charnel et de l'écho qu'il a avec l'art en 2022?
J'ai utilisé la chirurgie esthétique, et je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, mais je l'ai utilisée pour en faire autre chose par rapport à ses habitudes d'amélioration, de rajeunissement, d'embellissement, soi-disant, en tout cas de ressembler à certains modèles. Et j'ai fait placer des implants qui sont habituellement mis pour rehausser les pommettes. Je les ai fait déplacer en les faisant placer sur les tempes, et ce qui crée deux bosses. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est d'utiliser la chirurgie esthétique, mais au lieu de faire une opération censée apporter de la beauté, c'était au contraire une opération censée apporter de la laideur, de la monstruosité. Et effectivement, si on me décrit, sans me voir, comme ici, en ce moment, comme une femme qui a deux bosses sur les tempes, on pourra probablement s'imaginer que je suis monstrueuse, absolument indésirable. Et si on me voit, les sentiments, les appréciations peuvent changer. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que petit à petit, ces bosses qui, au départ, ont fait hurler tout le monde, dont les médias qui ont raconté n'importe quoi sur ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que j'étais la plus grande masochiste du monde. Effectivement, c'est d'un ridicule incroyable, puisque mon premier deal avec le chirurgien n'était pas de douleur. Et que c'est possible, c'est comme chez le dentiste, on fait une piqûre et après on a juste des sensations bizarres, mais on ne souffre pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le bloc opératoire, j'ai pu lire des livres, j'ai pu faire des dessins avec mes doigts et mon sang, j'ai pu lire des textes, j'ai pu échanger, parce que mes opérations étaient transmises par satellite, et en particulier celle de New York, où tous ceux qui recevaient le réseau satellite dans ma galerie Sandra Gerling à New York, ou bien au centre Pompidou ici, ou au centre McLuhan à Toronto, eh bien, pouvaient me poser des questions en direct, et moi je répondais dès que le geste opératoire le permettait. Donc, et c'était une époque, je dois le préciser, où on n'avait pas la webcam, donc on devait effectivement louer un réseau satellite. Ce n'était pas facile, ça prenait du temps, il fallait être dans, faire la queue pour avoir le réseau. Et ça coûtait très cher, ça ne marchait pas à tous les coups. Donc moi j'ai été pionnière à cet endroit et toute ma vie j'ai essayé d'être pionnière et à la fois avec les nouvelles technologies mais aussi dans les concepts. Donc cette opération maintenant c'est hallucinant parce qu'elle est intégrée après vraiment beaucoup beaucoup de difficultés et à tel point que souvent on me dit « Ah comme tu es belle !» Et je dis « Attends, qu'est-ce que tu dis ? Tu n'as pas vu mes bosses ?» Et on me dit, oh, mais ça te va très bien, c'est parfait. Non, c'est... Oh non, tu es très belle. Alors ça, c'est vraiment aussi extraordinaire parce que ces bosses sont devenues des organes de séduction. C'est ma décapotable.
Je voulais qu'on parle aussi de liberté et d'égalité. Cette liberté que vous exprimez jusque dans votre intimité, jusque dans votre pansexualité. Et lorsque vous avez justement décidé d'enlever ce masque de l'inné avec vos self-hybridations dans les années 90, en fusionnant aussi avec d'autres cultures, vous souhaitiez vous réinventer avec une image allant contre les standards de beauté et contre les diktats de cette société et de ces sociétés finalement, luttant pour l'émancipation des corps et des femmes afin de court-circuiter toute idée de beauté pure et canonique pour proposer parmi des possibles une beauté pas imaginée ou réputée laide, voire monstrueuse, ce que vous expliquez très bien. Et d'ailleurs, lors de votre performance et conférence à Montpellier, vous montriez également la vidéo « Manifeste l'écorché ». Donc cette fameuse vidéo où vous retrouvez votre liberté par cette écorchure où le racisme ne s'inscrit pas dans la couleur d'une peau qui n'existe pas. Et donc par ce féminisme intersectionnel, vous montrez une personne au corps robuste, au corps fort, comme vous le dites, à l'apparence loin des stéréotypes de genre. Et justement, même dans la salle, quelqu'un vous avait crié « Tu es belle, comme tu es belle ». Et comme vous le dites, c'est devenu votre atout de séduction et donc votre réussite. Votre revanche. Et donc, ma question était la suivante. À l'heure où, depuis 2 ans, on enchaîne les expositions d'artistes femmes, surtout cisgenres, afin de rétablir une justice de celles qui furent invisibilisées dans l'histoire de l'art, qui ne représentent aujourd'hui encore que 15% des expositions en musée, j'oserais dire que vous avez peut-être la chance d'être à la fois une artiste avec une œuvre exigeante et en même temps très populaire, connue du grand public. Donc, est-ce que cela vous a aidé justement à ne pas subir les mêmes inégalités que toutes ces femmes, en tout cas les 85% qui ne se retrouvent pas dans les musées aujourd'hui.
Moi, je suis effectivement une artiste, je suis un miracle ambulant, et effectivement, on me reconnaît dans la rue sans arrêt, et ce n'est pas uniquement à cause de mon look, mais c'est parce que, effectivement, mon œuvre est enseignée dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, aussi dans les écoles d'art, dans les écoles qui forment des médiateurs, des gens qui vont travailler dans l'art, et au Louvre et de partout. Parce qu'effectivement, quand on parle du corps, c'est très très difficile de m'éliminer. Bon, mais en même temps, j'ai eu absolument toutes les difficultés possibles et imaginables, beaucoup par les hommes et par le système, mais aussi beaucoup par les femmes, qui parfois, les femmes qui ont du pouvoir, vous empêchent de passer et préfèrent continuer à donner le pouvoir à des hommes. Et ça fait très triste de dire ça, mais c'est la vérité. Et donc, j'ai subi aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai tout fait à l'arraché, mais là, vraiment, effectivement, par le fait que mes œuvres sont enseignées aussi bien pour le corps, mais aussi pour les hybridations, que ce soit pour les nouvelles technologies, parce que j'ai travaillé dès le départ, par exemple, avec le Minitel, qui est l'ancêtre de l'Internet. Et j'ai vraiment travaillé avec la réalité augmentée. Là, je travaille avec l'intelligence artificielle. J'ai fait un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix parce que j'ai enregistré 22 000 mots dans des MP3 séparés. Et ce générateur de texte produit des textes sans arrêt. Et l'Orlanoïde est capable, dès que les textes s'affichent sur les écrans de LED, est capable de le lire. Donc, moi, ce que j'essaye, en fait, vous disiez que je n'étais pas, que j'étais une artiste avant tout. Effectivement, je ne suis pas du tout assujetti à une pratique artistique ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. J'essaie de dire des choses très fortes pour mon époque. J'essaie d'interroger des phénomènes de société, et j'en ai interrogé beaucoup. Et à partir de cela, après avoir m'être beaucoup informé, après avoir analysé et fait la synthèse, eh bien, je me demande dans quel matériau, dans quelle technologie et même dans quel style je vais réaliser l'œuvre pour qu'elle puisse révéler l'essence de l'idée de départ. Donc ça, c'est ma manière de travailler, voilà.
En même temps, vous disiez aussi à Montpellier avoir connu le coût de cette radicalité dont vous parlez en mangeant à certaines époques, vous avez dit, de la vache enragée maigre. Donc où est-ce que vous en êtes sur ce point-là? Est-ce que vous vous engagez aussi pour aider des artistes, par exemple identifiés comme femmes, notamment les jeunes, à vivre de leur art? Je pense notamment aux mots que vous avez eus pour les étudiants et étudiantes des Beaux-Arts de Montpellier, qui étaient vraiment aussi de leur dire de sortir de Montpellier, de voyager, de partir. Et donc finalement, voilà, quelle est la situation à ce niveau-là sur le coût de l'engagement?
Avec ce que j'ai fait, avec ma notoriété, si j'étais un homme, j'aurais beaucoup de zéros au prix de mes œuvres. Et donc, vous savez ce que disent les Guerrilla Girls. Elles disent, être une femme artiste, c'est fantastique, car notre carrière peut exploser dès 80 ans. Donc comme moi j'ai fait une partie du parcours, vous voyez, je suis très optimiste. Et puis tout va tellement mieux qu'avant que c'est formidable. Ma carrière est maintenant tout à fait à la place qu'elle devrait être, hormis financièrement où effectivement je devrais avoir beaucoup plus de commandes publiques, je devrais avoir une grande expo à Pompidou, je devrais avoir beaucoup de choses que je n'ai pas encore eues et que j'aurais dû avoir. Parce que mes amis artistes hommes, il y en a beaucoup qui ont fait moins que moi et qui l'ont eu. Donc, mais je voudrais en revenir à l'illisibilité, la transparence des femmes. Dernièrement, j'ai vu un documentaire qui m'a bouleversé. Un documentaire sur Alice Guy. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est hallucinant. Cette femme a été la première réalisatrice cinéma. Elle a travaillé avec le muet, puis ensuite avec le parlant. Elle était embauchée par Gaumont et elle a réalisé 200 films. 200. Puis elle a monté une maison de production et elle a produit beaucoup de films. Au final, Gaumont l'a effacée de bien des endroits. Son mari est parti avec une jeune fille et aussi l'a effacée dans bien des cas. Et cette femme qui a aussi écrit son autobiographie, en fait, après avoir fait 200 films, n'est pas dans les histoires du cinéma. Elle n'y est pas, c'est pas un peu qu'on l'aurait effacée, un peu, on l'a fait disparaître. Mais qu'est-ce qu'on a contre les femmes? C'est hallucinant, c'est tellement grave, c'est d'une injustice effrayante. Et effectivement, parfois, pas toutes, mais des jeunes filles pensent que maintenant c'est fait, que être féministe c'est has-been, que tout va bien, mais non, si je vous prends cette situation, elle est insupportable, mais on peut donner 1000 exemples où vraiment il y a quelque chose contre les femmes et violemment. Moi, j'aimerais bien ne pas avoir ce souci, hein. Toute ma vie, j'ai œuvré pour que les choses changent, aussi bien dans le privé que dans le public ou dans mon œuvre. Et en fait, après quelques soubresauts, comme effectivement MeToo ou Balance ton porc, eh bien, les choses sont en train de se refermer, totalement. Donc là, vraiment, il y a un vrai problème. Et je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Quand vous pensez, par exemple, vous parliez de mon autoportrait en écorché, mais c'est absolument incroyable. Je lui fais prendre justement la position de la statue de la liberté à la fin. Mon avatar prend la position de la statue de la liberté. Mais c'est parce qu'on a besoin, tous autant que nous sommes, de liberté et des libertés. Mais quand vous pensez que moi qui veux travailler sur la représentation du corps, je ne peux pas mettre des expositions que je fais dans ma galerie Cesson et Bennetière dans Instagram ou dans Facebook parce que c'est immédiatement fermé, bloqué. Et c'est uniquement avec les seins des femmes. C'est pas avec les seins des hommes. C'est hallucinant. Là, dernièrement, j'ai quelqu'un que j'ai connu dans une exposition à Montréal et au Québec. Et il est en pleine transition. C'est un homme qui veut devenir femme. Et je lui dis, il m'a écrit, j'ai ça en tête parce qu'il m'a écrit là, aujourd'hui ou cette nuit, et il va se faire des seins. Je lui dis, mais fais attention parce que tu vas voir, tu vas plus pouvoir apparaître sur Instagram, les photos, alors que juste avant, il apparaissait sans aucun problème. Donc, souvent, ce qui est incroyable, le tabou du corps, c'est quelque chose qui est fabriqué la plupart du temps, pas que, hélas, par les religions. Mais c'est incroyable, parce que si vous croyez en Dieu, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie, mais si vous croyez en Dieu, bien sûr, il a fait les êtres humains à son image. Donc ce sont forcément des chefs-d'œuvre que l'on doit absolument respecter, sacraliser, montrer sans cesse. Ainsi que la sexualité, hein. Nous on n'y est pour rien, hein. Si c'est lui qui nous a fabriqués, il a fallu tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des choses qui se pénètrent. Donc il y a quelque chose qui ne va pas quoi, dans la tête des gens, dans la société, c'est très étrange, très très étrange. Donc voilà, toute ma vie j'ai travaillé pour que ça change. Et effectivement, il y a eu quelques avancées, mais pas énormes, pas énormes. Moi, j'ai été prof de toute ma vie dans des écoles d'art, et c'était hallucinant. Il y avait 70-75% de femmes dans les cours que je donnais, quand ce n'était pas plus. Et elles sortaient avec le tampon artiste certifié, comme les hommes, quand elles avaient passé leur diplôme avec succès. Eh bien, quand on regardait ensuite ce qui se passait dans le milieu de l'art, eh bien on s'apercevait que les quelques hommes qui étaient dans ces classes, finalement, c'était eux qui étaient montrés, qui étaient achetés, etc. Et beaucoup moins de femmes, alors qu'il y en a beaucoup plus. C'est à se jeter la tête contre les murs. C'est très, très étrange, quoi.
Bah aussi... Il y avait une conférence la semaine dernière, un cycle de conférences à Montpellier qui s'appelle Les Fabuleuses. Et Reine Pratt, justement, qui a été au ministère de la Culture et qui avait fait ses fameux rapports, notamment en 2009, sur l'égalité femmes-hommes dans le domaine du spectacle vivant, expliquait que c'était aussi, bien sûr, encore et toujours un problème d'institution qui était aux mains des hommes et qui donc donnait le pouvoir à des hommes, donnait la visibilité à des hommes.
On a pensé ça à un moment. Et on a donné beaucoup de place dans les institutions pour des femmes.
Après, le sexisme intériorisé existe. Hein.
Et ça n'a pas changé. Et écoutez, dernièrement, j'étais dans une soirée où il y avait beaucoup d'artistes et d'autres personnes, mais du milieu de l'art. Et une femme vient me voir, me fait plein de compliments et me dit des choses agréables, etc., sur mon travail et tout ça. Et je lui dis, madame, mais qui êtes-vous ? Et elle me dit... Je suis rien. Il n'y a que les femmes pour dire des choses aussi horribles. Et pire, dans la soirée, pire, je ne sais pas si c'est pire, c'est pareil. Je vais voir une autre femme qui vient me voir et qui me dit là aussi qu'elle a été très influencée par mon travail, qu'elle l'adore, etc. Et je lui dis, mais qui êtes-vous? Et elle me dit, ah, mais je suis la femme de ce monsieur. Mais les femmes creusent leur tombe aussi, quoi. C'est tellement intégré, on les a tellement formatées à être une ombre. Et c'est pour ça que je travaille sur les femmes de l'ombre, les modèles, les muses, les inspiratrices, celles qui ont beaucoup donné pour la notoriété de nos grands maîtres. Et je vais avoir le 17 mai une grande exposition au musée Picasso, où effectivement je suis partie, j'ai fait des œuvres, où je suis partie des peintures, des portraits que Picasso a fait de Dora Maar, où elle pleurait. Et donc, j'ai intitulé cette exposition « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Et j'ai fait un travail de collage, on pourrait dire, très violent sur les œuvres, pour essayer que ces femmes qui ont été des objets toute leur vie deviennent des sujets et qu'à travers leurs larmes, on voit qu'elles sont en train de se mettre en mouvement, de s'émanciper et de faire autre chose que de subir.
Et donc ce sera l'exposition du 17 mai au 4 septembre au musée Picasso Paris.
Et mon exposition à Toulouse a commencé le 7 avril et va durer jusqu'à fin août.
Alors, j'avais pu voir dans votre œuvre, vous me dites si je me trompe, une dimension un peu spirituelle dans votre quête existentielle. Vous m'avez fait penser en fait à deux artistes qui portent cela dans leur œuvre, et donc déjà Henri Michaux, qui voyait la création comme un processus de salut portant l'être hors du gouffre pour échapper au néant intérieur et pour affirmer sa présence au monde et à soi-même. Et puis Yves Klein, bien sûr, qui partira en quête d'un éveil spirituel au cœur, alors lui d'une troisième dimension quelque peu mystique au sein du mouvement des nouveaux réalistes dans les années 60. Lui se dressera en premier alchimiste postmoderne et utilisera le corps comme support de l'art avec ses anthropométries.
Pas le corps, c'est le corps des femmes comme pinceau, comme objet pour faire de ses peintures. Justement. Et les vendre.
Absolument.
Donc, les instrumentaliser total.
Absolument. En tout cas, cette révolution de Klein, elle était bleue. Donc je me demandais, vous, votre révolution, justement, par rapport à ce genre d'artistes qui se disaient épris d'existentialisme dans leur œuvre, de spiritualité. Est-ce que votre révolution, elle est d'une autre couleur que celle de Klein, couleur politique, j'entends?
Moi, je pense que dès que on parle de spiritualité, c'est insidieux et on est sur la mauvaise pente. Tout à coup toutes les croyances sont là et remontent à la surface. Moi je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Si les autres ont besoin de Dieu, qu'ils le gardent, et c'est très bien si ça les aide, je trouve formidable, mais en tout cas c'est absolument pas mon cas. Je dis, je suis un corps tout entier, un corps, rien qu'un corps, et c'est mon corps qui pense. Donc, et j'ai fait aussi beaucoup d'œuvres qui s'appellent « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel ». Donc vous voyez, je suis loin de l'âme, je suis loin de tout ce qu'on a essayé de nous mettre dans la tête et de nous formater.
Et justement, pour parler de logiciel, il y a plus de 10 ans, vous lanciez sur votre site une pétition contre la mort qui compte aujourd'hui plus de 1500 signatures sur votre site. Voyant la mort comme une vulgaire maladie que l'on devrait pouvoir soigner, vous refusez donc de mourir. D'ailleurs, la nuit et l'obscurité vous angoissent, vous dites. Est-ce que vous pourriez parler de la place des nouvelles technologies et de la science pour survivre au moins artistiquement à votre vie humaine, notamment l'intelligence artificielle et les robots, donc avec votre humanoïde Orlanoïde en 2018, mais aussi votre remède contre la mort, notamment ce projet de devenir un NFT?
Alors, moi, quand j'étais adolescente, j'aurais jamais pensé, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, j'aurais un androïde dans la poche. Donc, je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, Il va se passer des choses, et en particulier pour le corps, on le voit déjà par exemple avec les manipulations génétiques, on le voit avec de nouvelles manières de soigner complètement, avec de nouvelles découvertes scientifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, de changer. Donc, je pense qu'effectivement, il est déjà nécessaire de signer des pétitions contre la mort, parce que ça ouvre la tête à des paradigmes tout à fait différents, et ça nous fait sortir de ce qu'on nous a obligé de penser, qu'effectivement la mort était inéluctable. Et en fait, on commence à mourir dès que nos neurones commencent à ne plus progresser, donc vers les 25 ans. Et donc, on passe sa vie dans le couloir de la mort. Et puis, ça se passe bien sûr de plus en plus mal, parce que le corps n'a plus du tout la forme qu'il avait avant, et il a aussi beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes, beaucoup de tortures, beaucoup de douleurs, beaucoup de maladies. Et en plus, on voit toutes les facultés mentales s'effilocher aussi. Donc c'est une torture absolument invraisemblable, quoi. S'il faut faire une manif, c'est bien sûr une manif contre la mort. Et il y a ce livre de Laurent Alexandre qui s'appelle La mort de la mort, qui est vraiment à lire, parce qu'effectivement, il faut peut-être qu'on arrête de penser comme ça, d'autant plus qu'on a tiré la courte paille, parce que il y a des baleines et des requins qui vivent 300 ans, il y a des séquoias géants qui vivent 4005, 3005, 4005. Il y a des tortues qui vivent très longtemps. Il y a des vers que l'on peut recouper et qui se régénèrent sans arrêt. Donc, c'est pas vrai que la mort est inéluctable et que, en tout cas, notre longévité, notre horloge biologique peut tout à fait probablement être bousculée, être différente. En plus, on est en train de, effectivement, de pouvoir greffer même des cœurs de cochon, même si la personne est morte, mais peut-être que la prochaine n'en mourra pas. Et on peut refabriquer des organes. Donc, il va se passer des choses dans les années qui viennent et dans les siècles qui viennent. Absolument qu'on ne peut même pas imaginer, même pas imaginer. Donc voilà, moi je ne suis ni technophile ni technophobe. Et ce que j'espère, c'est effectivement que toutes les résistances habituelles, dès qu'il y a quelque chose de différent, de neuf, de nouveau, ne vont pas se mettre en place pour empêcher. Vous avez dit que j'ai peur du noir, c'est pas du tout. J'adore la nuit. J'adore la nuit. Je vis que la nuit pratiquement. Je vis jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin. C'est vrai que j'aime beaucoup m'endormir à l'aube, mais je n'ai pas peur du noir.
Oui, dans 28 minutes, il y avait cette citation, mais c'était plus sur la création la nuit et dormir le jour. Vous qui avez cultivé votre microbiote, votre flore vaginale qui envisageait
Et mes cellules.
d'exister, et vos cellules, et qui envisageait d'exister sous forme matérielle, en tout cas pour l'éternité, comment est-ce que vous faites justement pour que cette démarche-là ne soit pas un peu le règne de l'ego et du soi exacerbé de ne jamais vouloir disparaître? Comment est-ce que vous... Parce que vous dites quand même que cette démarche n'est pas égocentrique.
Mais tout le monde a besoin de Narcisse avec soi, c'est absolument indispensable, comme tout le monde a besoin d'une petite dose d'agressivité pour rester en vie. Mais l'essentiel, en tout cas, même si on est narcissique, c'est de ne pas se perdre dans son reflet.
De ne pas se noyer. Et donc, vous nous avez parlé en termes d'actualité de la prochaine exposition solo que vous aurez au musée Picasso. Vous aurez aussi une exposition collective, Arles, les rencontres de la photographie féministe avant-garde à la Mécanique Générale du 4 juillet au 25 septembre. Donc, qu'est-ce que vous y présenterez?
Eh bien, c'est la Fondation Verbung qui a organisé cette exposition, qui va présenter toutes les œuvres qu'ils m'ont achetées. Il y aura tentative de sortir du cadre, il y aura Orlan accouche d'elle-même à IME, il y aura Orlan vend son corps sur les marchés, enfin, le baiser de l'artiste, il y aura beaucoup de choses, je ne les ai pas en tête, il y aura énormément de pièces à moi, voilà, dans cette exposition.
Alors, je voulais finir sur le dernier mot que vous aviez dit justement à la conférence à Montpellier sur finir en NFT. Quel est ce grand projet?
J'ai jamais dit finir en NFT. Hein. Là, c'est, je vois pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais en tout cas, ça fait un an que je travaille pour essayer de faire des NFT, mais absolument très très différents des petits guignols ou des petites horreurs que l'on voit en général jusqu'à présent. Il y a maintenant de nouvelles tentatives avec des artistes qui plus conséquents et qui essayent vraiment d'en faire quelque chose. Moi, ce qui m'a intéressé dans les NFT, c'est qu'effectivement, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et là, c'est une tentative, même si c'est qu'une tentative, c'est une tentative de séparer l'argent du capital, de l'État. Donc ça, c'est pratiquement la seule chose qui m'intéresse vraiment, quoi, qui est porteuse, qui est, et donc après, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment effectivement toutes ces choses qui fabriquent beaucoup, 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 qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de calcul, comment on peut leur faire passer des caps pour que ça soit moins terrible, énergivore de ce côté-là. Bon, voilà, ce sont des questions que je me pose et bientôt il y aura des œuvres effectivement qui vont sortir sous la forme de NFT. Parce que l'NFT, c'est un phénomène de mon temps, donc je ne pouvais pas ne pas m'y intéresser et ne pas essayer de les questionner, de les dérégler et de me positionner par rapport à cela.
Est-ce que vous avez un mot pour finir ce long entretien? Peut-être vive le slow.
Après le baiser de l'artiste, j'ai voulu faire le slow de l'artiste. Donc, j'ai écrit des textes, parce que j'écris beaucoup, j'écris toutes les nuits, et j'ai fait des paroles, je les ai données à des musiciens qui ont créé la mélodie et qui ont chanté, mais j'ai aussi introduit ma voix. Et là, déjà, j'ai fait plusieurs, comme à Omoko, mais ailleurs aussi. Je viens de danser le slow il y a très peu de temps à Toulouse. Effectivement, j'essaye de rapprocher les corps, et ça me paraissait d'autant plus important que la plupart de mes stagiaires assistantes qui sont là n'ont pas dansé le slow, n'ont jamais dansé le slow, parce que ça ne se fait plus. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les jeunes, c'est indispensable. Et je vais faire un album tout slow pour relancer le slow et pour que les corps se rapprochent. Et puis, j'ai écrit une page torride dans mon autobiographie sur le slow, parce que le slow, effectivement, c'est à la fois sensuel, sexuel, ça peut être amoureux, mais c'est vraiment deux corps qui se rencontrent, qui se touchent, qui se serrent, qui se frottent, voilà, dans une excitation montante.
Donc finalement, Roland, c'est à la fois célébrer les technologies d'avenir, mais prendre le meilleur aussi du passé pour le rétablir dans le présent.
Le rétablir, non. Non,
Le
pas le rétablir,
réinsérer.
certainement pas. Non, mais effectivement, moi c'est très très important, j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art, c'est très très important de savoir ce qui s'est fait avant, parce que ces artistes qui maintenant pour nous sont complètement intégrés ou très lointains, ont été souvent, la plupart du temps, aussi des pionniers ou même des gens qu'on a mis de côté. Rappelez-vous les impressionnistes, on a dit qu'ils ne voyaient pas clair et qu'ils faisaient n'importe quoi, que c'était la plus grande supercherie de tous les temps. Et puis, effectivement, petit à petit, ça s'est intégré à l'art et ça se vend très cher. Donc voilà.
Merci beaucoup, Arlan.
Au revoir, merci.